CQFD. Silvio Dolzan.
Bonjour. Cette nouvelle semaine de Science et de Santé va débuter par la chronique d'actualité de Sarah Diron. Bonjour Sarah.
Mais bonjour Silvio.
Vous allez nous parler de cousins de nous autres Homo sapiens.
Les Néandertaliens, puisque le séquençage complet d'une Néandertalienne vient d'être réalisé. Les résultats qui permettent peut-être de jeter un regard nouveau sur le mode de vie de nos cousins, cousins de l'humanité.
Exact. Ensuite, je vous proposerai en nouvelle diffusion un sujet de Bastien Confino qui faisait en mai dernier le point sur la recherche de la vie extraterrestre. Et enfin, ce sera le premier épisode d'une série d'Anne Bécher sur les morts violentes célèbres, de celle de Marat dans sa baignoire à celle de Boris Vian en passant par celle de Robespierre. Des hommes de Néandertal, des petits hommes pas forcément verts et des morts violentes. C'est CQFD, c'est jusqu'à 11h. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas eu d'inceste. C'est ce que révèle l'analyse génétique d'une Néandertalienne qui vivait en Croatie actuelle il y a 52 000 ans. Les résultats de cette étude menée par les chercheurs de l'Institut Max Planck ont été publiés la semaine dernière dans la revue Science. Des résultats, Sarah Diron, qui jettent une nouvelle lumière sur le mode de vie de nos ancêtres, donc les cousins de notre humanité.
Oui, cousin de l'humanité, puisque Néandertal a croisé la route d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, il y a environ 100 000 ans. Les tests génétiques le prouvent désormais. Hein, nous sommes hybridés avec Néandertal. Nous possédons à peu près 2 à 2,5% de gènes néandertaliens. Alors vous le disiez, Silvio, le séquençage du génome de cette femme vieille de 52 000 ans montre qu'il n'y a pas eu d'inceste. Contrairement à une autre analyse génétique qui avait été réalisée sur une Néandertalienne vieille, elle, de 122 000 ans et vivant en Sibérie, analyse génétique qui montrait que inceste il y avait eu, puisque ses parents provenaient de la même famille. Alors comment interpréter ces nouvelles analyses? Nos cousins néandertaliens vivaient-ils en petits groupes, sans grand brassage génétique, ou au contraire, étaient-ils beaucoup plus ouverts sur le monde?
Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec vous, Alicia Sanchez-Mazas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas l'auteur de cette étude, on tient à le dire, mais vous êtes responsable de l'unité d'anthropologie du département de génétique et évolution de l'université de Genève, d'où vous êtes en duplex avec nous. Et votre spécialité, c'est justement comprendre la diversité génétique des populations dans un contexte évolutif. Alors, ces Néandertaliens, comment est-ce qu'ils vivaient?
Bon, alors d'abord, il faut dire que la paléontologie et l'archéologie ont révélé beaucoup d'informations sur les Néandertaliens. On sait qu'ils ont occupé un très vaste territoire en Eurasie, puisque celui-ci s'étend depuis l'extrême ouest de l'Europe, Portugal, Gibraltar, jusqu'en Sibérie. Donc, on a trouvé des restes dans les monts Altaï, en Sibérie. Ces Néandertaliens, qui étaient vraisemblablement une autre espèce contemporaine à la nôtre, ont vécu pendant plusieurs dizaines de milliers d'années en même temps que les Homo sapiens et sur des territoires très voisins. Donc ces populations, on pense que c'était des populations, peut-être des petites communautés. Ça, les analyses génétiques vont encore nous révéler des informations là-dessus. Mais ce qu'on sait à travers la paléontologie et l'archéologie, c'est par exemple que, c'était des populations qui enterraient leurs morts, qui utilisaient des outillages qui n'étaient pas très très rudimentaires. Enfin, qui étaient assez semblables finalement aux outils qu'utilisaient les Homo sapiens. C'était des populations qui utilisaient des pigments pour des ornements. Ils avaient, disons, un mode de vie qui était assez sophistiqué, plus sophistiqué que ce qu'on pensait antérieurement.
Ouais, ils étaient en fait moins sauvages qu'on ne le pensait, quoi. Hein.
Oui, tout à fait.
Ça, hein.
Mais justement, est-ce que la paléontologie qui reconstitue, vous l'avez dit, notre passé, est-ce qu'elle n'est pas bousculée par ces nouveaux résultats de séquençage génomique?
On peut pas dire bousculer. Je pense que là, on a deux sources d'informations complémentaires, indépendantes, qui sont extrêmement intéressantes l'une et l'autre. Avec la génétique, évidemment, on va un petit peu déchiffrer la carte d'identité génétique de ces cousins néandertaliens, ce qui est très intéressant parce qu'on va, d'abord, on s'est rendu compte qu'il n'était pas très éloigné génétiquement des humains modernes, donc des Homo sapiens, mais qu'il possédait quand même suffisamment de différences pour qu'on considère que ce soit deux espèces différentes. Néanmoins, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des hybridations possibles, mais vraisemblablement, c'était pas un cas très généralisé. C'était peut-être un cas d'hybridation tous les 25 à 50 ans, d'après certaines estimations.
Mais d'un côté, on le voit, une femme néandertalienne a été, le génome de cette femme a été, il y a eu deux séquençages de femmes néandertaliennes. Que révèle la comparaison de ces deux séquençages?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec la génétique, même si vous avez un seul individu et que vous séquencez le génome complet, vous avez suffisamment d'informations pour estimer un petit peu le taux de diversité génétique de la population à laquelle ils appartenaient. C'est ça qui est assez remarquable avec la génétique. Et là, aussi bien le séquençage du génome de Néandertal de l'Altaï, donc de Sibérie, que ce nouveau séquençage de Croatie qui a été publié il y a deux jours, révèle un taux de diversité chez les Néandertaliens qui était plus réduit par rapport aux Homo sapiens. Autrement dit, ces individus appartenaient à des populations endogames, petites populations où vraisemblablement il y avait beaucoup de mariages entre cousins, etc. Et ça, c'est simplement parce que on arrive à voir que dans le génome, il y a des identités de marqueurs entre les deux chromosomes hérités du père et de la mère.
Est-ce que ça va? Alors, la première a été trouvée en Sibérie, la deuxième en Croatie. Est-ce que ce manque de diversité peut nous permettre de dire que ces deux femmes sont, entre guillemets, de la même lignée?
Bon, là, on pense qu'elles étaient de la même lignée dans le sens où c'était, elles étaient issues de populations cousines. Donc, oui, elles ont eu un ancêtre commun qui a divergé. Peut-être il y a 130 à 140 000 ans, d'après des estimations génétiques. Ces Néandertaliens étaient eux-mêmes vraisemblablement des cousins éloignés de l'humain de Denisova, dont on a beaucoup parlé aussi dans la presse, et tous ces groupes d'humains non modernes étaient eux-mêmes des voisins, des cousins des Homo sapiens.
Alors l'étude Alicia Sanchez-Massas montre que 16 variantes génétiques de Néandertal ont été transmises à nous, Homo sapiens. Est-ce que ces variantes sont responsables, par exemple, de certaines de nos maladies, la schizophrénie ou l'arthrite rhumatoïde?
Oui, alors d'abord, il faut dire que ces 16 nouveaux variants qui ont été décrits dans cette nouvelle étude, qui révèlent peut-être certaines susceptibilités à des maladies, effectivement, qui auraient été transmises à Homo sapiens. Maintenant, il faut quand même être prudent, parce que on est en train de parler quand même de deux génomes, deux individus. Donc, on n'a pas encore un reflet de la diversité génétique qui existait chez Néandertal. Autrement dit, ben voilà, on va trouver certains variants de susceptibilité à des maladies, on peut trouver, mais imaginez qu'on séquence une population entière, eh bien on va trouver peut-être aussi d'autres types de marqueurs de résistance à des maladies.
On ne l'a pas fait jusqu'ici tout simplement parce qu'on n'en a pas retrouvé.
C'est très difficile de séquencer l'ADN fossile aussi ancien. Il se dégrade avec le temps. Donc c'est déjà une très très grande prouesse d'avoir séquencé deux génomes complets. On avait déjà reconstitué un génome complet à partir de fragments de génome de plusieurs individus néandertaliens. Mais c'est sûr que de là avoir un descriptif de toute la diversité néandertalienne de l'époque, on n'en est peut-être pas encore là.
Et il est important que les sujets soient des femmes?
Ah non, pas forcément. Alors là, on a simplement déduit par la génétique que c'était des individus féminins, mais non, c'est...
Non, je pensais à l'ADN mitochondrial.
Ah, l'ADN mitochondrial, bah aussi bien les hommes que les femmes en possèdent. C'est un ADN qui est transmis par voie féminine. L'ADN mitochondrial, effectivement, c'est un ADN qui est plus petit, plus présent en beaucoup plus grand nombre dans les cellules, donc il est plus facile à séquencer et il a révélé les premières informations sur Néandertal au niveau génétique. Mais maintenant, on parle du génome complet, c'est-à-dire de l'ensemble des chromosomes, ce qui là nous révèle beaucoup plus d'informations que simplement l'ADN mitochondrial.
Et donc on est encore loin d'avoir résolu tous les mystères relatifs à notre cousin Néandertal, et surtout celui-là, c'est qu'on ne sait toujours pas comment et pourquoi il a disparu de la surface du globe il y a environ 35 000 ans. Merci beaucoup Alicia Sanchez-Mazas. Je rappelle que vous êtes responsable d'une unité d'anthropologie au département de génétique et évolution de l'université de Genève, d'où vous étiez en duplex avec nous. Vous avez répondu à l'invitation de Sarah Diren. Je vous souhaite une très très bonne journée.
Vous pareillement.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Il pleut des rires aux éclats sur les tables étanches, et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans. Quelqu'un tient debout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. L'après-midi danse, un tango curé, le soleil immense nous a maquillés. S'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans.
C'était Dutronc fils, donc Thomas Dutronc, hein, ça s'appelait « Allongé dans l'herbe ». Je vous propose maintenant, à 10h17, de réentendre un sujet qui date de fin mai dernier. Bastien Confineau, il faisait le point sur la recherche de vie extraterrestre.
Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'état des lieux en la matière, en tout cas dans CQFD. Et puis pour être honnête, c'est une chronique que je voulais faire l'année dernière avec André Braïc, que nous avons reçu de nombreuses fois sur notre antenne et qui malheureusement est décédé entre-temps. Donc petite dédicace à ce brillant astrophysicien.
Qu'il mérite.
Exactement.
Alors et pour parler de cette vie extraterrestre, eh bien on va recevoir deux personnalités du domaine. Faut pas hésiter à avoir peur des mots. Stéphane Udry d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome, directeur de l'Observatoire de l'Université de Genève, chercheur de planètes extrasolaires. Vous avez fait le déplacement de notre studio aujourd'hui. Et Jacques Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthicien au Centre National d'Études Spatiales en France, à le CNES, hein, auteur du livre « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous » qui est paru chez Albin Michel. Vous êtes en direct de notre studio de Paris. Alors on va commencer par vous, Jacques Arnoux. Pour rechercher de la vie dans l'univers, il faut commencer par la définir, cette vie. Comment est-ce que vous la définiriez ?
Si vous posez la question aux chercheurs qui sont directement sur ce sujet, vous découvrirez que chacun a sa petite définition. Et c'est déjà, je dirais, à la fois l'intérêt et la difficulté de cette immense question de la vie extraterrestre. C'est-à-dire, qu'entendons-nous par vie ? Déjà sur Terre, où s'arrête la vie ? Vous posez la question à un biologiste. Est-ce que le virus est vivant ? Est-ce que le prion est vivant ? On vous dit oui, on vous dit non. Donc, mais il nous concerne. Donc, au fond, la définition de la vie, il faut peut-être être modeste et se dire... Qu'est-ce qui, moi, en tant qu'être humain, va me toucher dans ce que je suis vivant ? Et c'est ça que je vais en particulier rechercher. Parce que sinon, on n'en finit pas, et surtout, on ne commence pas à chercher. Donc à ce moment-là, les astronomes attendent que les philosophes vous disent que c'est la vie avant de braquer leur télescope vers le ciel. Et ça, en fait, ils ne l'ont pas attendu, heureusement.
Et historiquement, est-ce que c'est nouveau de s'intéresser à la recherche de vie extraterrestre ?
Alors, historiquement, c'est une très vieille question. En termes de traces, on retrouve au moins des traces il y a 2500 ans chez les philosophes grecs. Et je suis certain que si on avait des traces écrites, possiblement des traces écrites plus anciennes, on trouverait déjà cette interrogation-là. L'être humain, lorsqu'il, j'allais dire, sort de sa caverne ou sort de sa savane, ou même quand il est encore dans sa caverne et encore dans sa savane, lève les yeux vers le ciel, rêve des étoiles et se dit « est-ce qu'il y a d'autres êtres ?» comme moi, ou un peu différent de moi, qui habite ce monde tel que je l'observe, tel que je le contemple. Ça fait partie de notre nature humaine que de se demander s'il n'y a pas quelque part, ailleurs qu'ici, quelqu'un avec lequel je puisse entrer en communication.
Et si ça fait partie de notre nature humaine, est-ce qu'on trouve trace de cette recherche de vie extraterrestre dans des textes religieux, qu'ils soient chrétiens ou de l'islam, je sais pas, des textes anciens?
Alors, comme je le disais, les philosophes grecs ont déjà débattu sur la question, il y a 2500 ans, entre par exemple, l'école de Platon et l'école des Démocrites. Donc, les textes existent, et certains disent, il est évident qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, et d'autres disent, non, nous sommes les seuls parce que nous sommes les plus intelligents, etc., etc. Et ensuite, les religions telles que nous les tels que vous les avez cités, que ça soit les religions liées à la Bible ou liées au Coran, eh bien, vont débattre ces questions avec des positions qui peuvent être extrêmement diverses, extrêmement, voire même opposées les unes des autres. Ce qui est même étonnant, c'est que, avant même que la science ne s'y mette, eh bien, pour des raisons philosophiques ou pour des raisons religieuses, certains ont pu affirmer l'existence ou au contraire l'absence de vie extraterrestre, qui aujourd'hui peut nous sembler assez étonnant, voire même choquant. De fait, si nous attendons une réponse sur la question de la vie extraterrestre, eh bien, nous nous tournons, comme vous l'avez fait ce matin, vers les astronomes.
Alors, on va se tourner effectivement vers les astronomes. Stéphane Udry qui est avec nous. Il y a deux types de vie qu'on peut rechercher dans l'univers, la vie extraterrestre intelligente et la vie tout court. On va s'intéresser dans cette première partie à la vie tout court. Il y a deux endroits où chercher. On peut regarder dans notre système solaire, qu'on peut aller visiter avec des sondes, ou on peut aller regarder hors de notre système, qu'on peut observer avec des télescopes, mais qu'on peut pas visiter encore, en tout cas pour le moment. Dans le système solaire, qu'on connaît maintenant quand même assez bien. Stéphane Udry, est-ce qu'il y a de l'espoir pour qu'on trouve un jour de la vie? Ailleurs que sur Terre, évidemment.
Oui, je dirais d'abord que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, l'espoir de trouver de la vie. On connaît un exemple sur Terre d'existence de vie. Donc, les scientifiques sont complètement motivés par cette recherche et convaincus qu'elle doit exister ailleurs simplement parce que les éléments constitutifs de la vie existent partout, que les lois de la physique et de la chimie sont supposées être les mêmes partout. Alors plutôt que de se pencher sur la question de la définition de la vie, qui est vraiment une question très complexe, on peut se poser la question plus simple de l'environnement qui serait favorable au développement de la vie et quelles sont les conditions qui le permettraient. Et on converge vite vers quelques éléments fondamentaux qu'il faut avoir. Donc, j'ai mentionné les éléments constitutifs. Et comme tous ces éléments sont synthétisés dans les étoiles, ils existent partout.
Donc, du carbone, de l'oxygène,
exactement.
De l'hydrogène.
Après, il faut pouvoir les combiner. Et pour les combiner, il faut à la fois de l'énergie et un solvant. Et le solvant universel dans ce genre de situation, c'est l'eau. Donc, on va aller chercher des endroits où on a de l'énergie à disposition et de l'eau sous forme liquide. Alors, dans le système solaire, pour répondre à la question, il y a deux endroits propices. Pour le faire, c'est à la bonne distance du soleil pour que l'énergie solaire permette d'avoir une température locale permettant l'existence de liquide. La Terre est en plein milieu de cette zone, mais Vénus et Mars sont également dans une zone favorable de ce côté-là, ce qui explique l'engouement des recherches autour de la planète Mars, hein, soit au niveau littéraire, soit au niveau scientifique. Et l'autre endroit propice dans le système solaire, ce sont les satellites glacés des planètes géantes. Parce que ces satellites sont assez proches de ces planètes pour que les effets de marée génèrent une énergie interne non négligeable. On a tous vu des images de Io, le satellite le plus proche de Jupiter, qui expérience un volcanisme exacerbé simplement dû aux effets de marée liés à la proximité
parce
de la planète.
Ça malaxe le satellite.
Exactement.
En quelque sorte, donc ça le chauffe.
Exactement. Et le satellite suivant, c'est Europa, qui est une sorte d'immense banquise. Donc une couche de glace qui est supposée flotter sur un océan liquide. Donc ce sont des endroits vraiment, disons, les plus favorables pour aller rechercher. Et après, on peut donner d'autres exemples de satellites glacés autour de Saturne.
Mais oui, il y a Encelade notamment autour de
Exactement,
Saturne.
Exactement, Encelade. à travers des fissures de cette couche
glacée. Ouais, c'est une boule de glace, en fait, hein, vu de l'extérieur comme ça. Ouais.
Mais on voit des geysers qui sortent, mm-hmm. avec des éléments organiques, donc avec des composés carbonés qui sortent, des ammoniacs aussi. Et donc, il y a même une mission qui est à l'étude maintenant de la NASA pour envoyer un satellite qui irait traverser ces geysers une dizaine de fois sur une période de 3 ans. Essayer de repérer des acides gras, des acides aminés, enfin des éléments un peu liés au vivant.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de la vie aujourd'hui sur ces satellites ou plutôt des traces de vie passée?
Si l'énergie est là, si l'eau sous forme liquide est là, pourquoi pas? La vie pourrait exister. Mais évidemment, les recherches se focalisent aussi sur les traces fossiles d'existence de vie. Entre autres, tout ce qu'on fait sur Mars, c'est plutôt lié à cet aspect-là.
Jacques Arnoux, on va revenir à vous. Je rappelle que vous êtes donc éthicien, hein, pour le CNES, le Centre National d'Études Spatiales français. À votre avis, quelles précautions il faut prendre si on tente de chercher de la vie dans le système solaire d'abord, hein, donc chez nous, quoi, en fait. Est-ce que vous émettez, vous, par exemple, puisque c'est un peu votre rôle quand même, des recommandations à vos collègues du CNES?
Alors, il n'est pas nécessaire que je les fasse moi-même, puisque des organismes le font continuellement, en particulier dans le domaine de la recherche. Le COSPAR, qui est le Comité de la Recherche Spatiale au niveau international et qui est un interlocuteur des Nations Unies, eh bien, en permanence, étudie, met à jour des recommandations, parce que, comme vous l'avez entendu, ne serait-ce que dans le système solaire, tous les corps célestes n'ont pas le même intérêt ou la même possibilité d'abriter aujourd'hui ou hier, ou peut-être demain d'ailleurs, des formes de vie telles que nous les supposons. Donc en fonction des lieux où les sondes se rendent et en fonction des missions qu'ils vont accomplir, il faut avoir des recommandations de précautions qui peuvent être fort différentes. C'est sûr que si on envoie une sonde sur Mars pour y chercher de la vie, il est hors de question que l'on amène de la vie on amène depuis la Terre de la vie sur Mars, parce que on va immédiatement trouver de la vie, oui, mais c'est celle que l'on va apporter. Donc il y a des recommandations absolument évidentes, absolument immédiates, mais c'est vrai dans un cadre particulier que celui dont nous parlons, qui est celui de la recherche scientifique. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que il y a aujourd'hui d'autres projets dans l'espace que des projets de recherche scientifique, y compris sur Mars. Alors, ces projets sont moins avancés que les programmes scientifiques dont nous parlons aujourd'hui, mais ils pourraient voir le jour demain, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire de ces recommandations du COSPAR, des recommandations scientifiques de précaution? Parce que si on va installer une ville sur Mars, une cité sur Mars, aussi petite soit-elle, et aussi propre puisse-t-elle être, il va y avoir nécessairement de la pollution et de la pollution biologique, puisqu'on va mettre des humains sur Mars. Et là, il est clair que les recommandations actuelles des scientifiques ne tiendront plus. Donc, on a déjà aujourd'hui des débats, en tout cas des interrogations au sein de la communauté spatiale. Qu'en est-il de l'évolution de ce qu'on appelle la protection planétaire, donc la protection des planètes que nous explorons, sans même parler de la protection de la Terre vis-à-vis des missions que nous ramènerons? Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui, mais surtout demain, lorsque peut-être des projets, non pas contradictoires, mais en tout cas des projets différents verront le jour, des projets entre autres d'exploitation des ressources minières. Donc là-dessus, il y a surtout une réflexion à entamer et ne pas attendre que nous soyons devant les faits accomplis. Et ma mission relève plutôt de cette mise en alerte, parce que, une fois encore, les scientifiques sont parfaitement conscients des précautions qu'il faut prendre aujourd'hui.
Donc, recherche de la vie dans le système solaire, ça c'est une piste. Si on trouve rien, faudra aller chercher au-delà du système solaire. Et là, la cible, ce sont des planètes extrasolaires, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Stéphane Udry, pourquoi aller chercher sur des planètes autour d'autres étoiles et pas forcément sur les étoiles elles-mêmes?
Oh, parce qu'une étoile, c'est une boule de gaz en fusion, donc un environnement très très chaud, avec surtout de l'hydrogène, donc pas favorable.
Oui, donc on n'a pas notre eau liquide dont on parlait.
Et même, on pourrait se poser la question de la vie sur des planètes comme Jupiter, qui sont aussi formées principalement de gaz, et c'est pas l'endroit principal qui est visé, parce qu'on pense que déjà il faut avoir l'eau sous forme liquide, que une surface solide pourrait être importante dans certaines étapes du développement de la vie, et donc le but, avec une vision un petit peu anthropocentrique, effectivement, c'est de chercher des planètes avec une surface solide qui ressemble à la Terre.
Et qui soit justement dans cette fameuse zone habitable par rapport à leur étoile, donc, hein, comme la Terre l'est par rapport au Soleil. Est-ce qu'on en connaît aujourd'hui, on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exoplanètes, hein, depuis la première découverte, mais est-ce qu'on en connaît beaucoup qui sont en zone habitable et qui pourrait éventuellement abriter de la vie.
Ouais, la nature est généreuse. Elle fabrique des planètes un petit peu partout. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans la zone habitable aussi. Mais dans les détections actuelles, on est surtout sensible aux grosses planètes géantes gazeuses. Donc, celles-là, même si elles sont dans la zone habitable, on va pas s'y intéresser spécialement, bien qu'elles puissent avoir des satellites comme Jupiter, et ces satellites pourraient être habitables dans le cadre de cette définition. Maintenant, si on focalise sur les petites planètes, c'est beaucoup plus difficile à les détecter, mais on commence soit par la mesure de l'effet gravitationnel induit par l'étoile, le changement de vitesse de l'étoile induit par la présence de la planète. On a trouvé des toutes petites planètes qui sont entre 1 et 10 fois la masse de la Terre, qui sont dans la zone habitable, et ou alors par des mesures d'éclipse, au moment où la planète passe devant l'étoile et cache son étoile. Plus elle est grande, plus elle va cacher une grande partie de la lumière de l'étoile, donc on peut mesurer sa taille. Et on connaît aussi pas mal de candidats dans la zone habitable détectés de cette manière. Il y a très très peu de cas pour lesquels on a les deux informations, où on peut les peser et mesurer leur taille et donc avoir leur densité. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que pour pouvoir apporter des contraintes sur un écosystème qui potentiellement permettrait le développement de la vie, il nous faut plus d'informations que soit la masse, soit le rayon.
On a beaucoup parlé de TRAPPIST récemment.
Alors, pour des planètes comme la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous. C'est le Holy Grail, en quelque sorte. Et tous les instruments que nous développons, soit dans l'espace, soit sur Terre, visent à détecter ces planètes-là. Maintenant, si on prend des étoiles beaucoup plus petites que le Soleil, ce qu'on appelle des naines rouges, 10 fois, 100 fois moins brillante que le Soleil, la zone habitable va être beaucoup plus proche et nos techniques de détection sont plus efficaces. Et dans les 2 derniers mois, 2 systèmes ont été découverts, TRAPPIST 1 et un autre qui s'appelle LHS 1140. Et dans ces 2 cas, on a une planète terrestre dans la zone habitable pour laquelle on a à la fois une idée de sa masse et de sa taille et donc de sa densité. On a pu montrer que les densités étaient proches de celles du sol, de la Terre.
Alors c'est très bien de trouver des planètes denses dans la zone habitable, mais comment est-ce qu'on pourrait détecter la vie à leur surface ? On n'a pas des télescopes assez puissants pour les voir et voir s'il y a des arbres à leur surface.
Alors oui et non, on commence à pouvoir voir les planètes en cachant la lumière de l'étoile et comme ça on voit un petit peu ce qu'il y a autour.
On n'est plus ébloui.
Et la Terre c'est 10 milliards de fois moins de lumière que le Soleil. Et donc c'est très difficile à voir. Donc on voit des grosses planètes pour le moment. Donc cette technique va nécessiter le développement de vraiment très grands télescopes au sol. Mais par contre, au moment d'une éclipse, au moment où la planète passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile va traverser l'atmosphère de la planète et les signatures des éléments chimiques de l'atmosphère de la planète vont se superposer à la lumière de l'étoile. Et par une technique dite de spectroscopie à haute résolution, on va pouvoir séparer les contributions de l'étoile, de la planète et aussi de l'atmosphère de la Terre, parce que la lumière va aussi traverser notre atmosphère avant d'arriver chez nous.
Et là, si on trouve un élément particulier, on peut dire qu'il y a de la vie à la surface ?
Alors ça, c'est difficile, parce qu'il faut comprendre tout l'écosystème. Et tout notre but, en fait, c'est pas seulement de trouver ces cas particuliers, mais c'est de vraiment donner une peinture de tout le paysage pour comprendre ce qui fait qu'un système est habitable ou non.
Alors peut-être que dans quelques années, on trouvera effectivement les signatures de vie à la surface de ces planètes.
Alors, on y travaille, on cherche même des raccourcis, parce que l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centaure, a une petite planète dans sa zone habitable. C'est une petite étoile, donc proche à période courte. Et on est en train de développer un couplage entre 2 instruments qui vont permettre peut-être de détecter de l'oxygène dans l'atmosphère de cette planète. C'est le but
signature de 5-10
ans qui viennent.
De vie à la surface. Jacques Arnoux, le jour où on nous annonce que oui, on a trouvé de la vie ailleurs dans l'univers, comment est-ce que vous pensez que l'humanité réagira ?
Ça, c'est une question que nous nous posons très souvent. Et alors évidemment, nous avons tous en tête la manière dont des auteurs de science-fiction ont pu imaginer cette annonce et puis même la mettre en œuvre, pensons à Wells, parce que c'est des mises en scène qui sont plausibles. Il y a déjà d'ores et déjà des organismes ou des responsables, des experts qui auraient peut-être une charge par rapport à ça, de répondre aux questions du public. En fait, on est aussi la communauté est assez partagée parce que certains de mes collègues me disent, tu sais, vu la manière dont vous-même les médias agissez, mais c'est pas une critique, c'est un constat. Bon, ça va faire la une pendant 2-3 jours et puis après on va passer à d'autres sujets politiques, artistiques et autres, parce que fort probablement que cette annonce concernera une étoile très lointaine. Vous voyez, même Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière, je crois. Enfin là, j'avance en note.
C'est juste...
Donc 4 années-lumière, c'est déjà des distances énormes. Lorsqu'on a détecté TRAPPIST-1, un journaliste belge, je me disais, mais c'est extraordinaire, on va pouvoir y aller. Je dis, c'est 40 années-lumière. Ouais. Donc, et vous avez même pas 40 ans, monsieur. Vous vous rendez compte ce que c'est comme distance. Donc, ouais, ouais. Brutalement, ça prend une distance énorme. Et puis, l'actualité, une fois encore, risque de nous inonder et de passer à autre chose. Donc, la question est ouverte. En ce qui concerne, je dirais, ceux qui sont peut-être plus engagés soit dans la recherche scientifique, soit dans l'interrogation philosophique et éthique autour de ces questions-là, il est clair que découvrir une trace de quelque forme que ce soit, notre collègue vient de nous en donner quelques idées, serait quand même assez révolutionnaire parce que tous les domaines de la science ou des sciences et même des sciences humaines seraient impacté, si vous me permettez ce terme-là, par une telle découverte. Parce que dire « nous ne sommes plus seuls », c'est entrer déjà dans une autre phase de l'humanité. Souvent, je dis, c'est passer du statut de fils ou de fille unique au statut de fils, de frère et sœur. Brutalement, nous ne sommes plus les seuls. Et ça, nous le savons tous, enfin en tout cas ceux qui sont parmi nous, parmi les auditeurs, des aînés de famille, ce passage-là, c'est difficile à vivre. Eh bien, nous serions peut-être obligés de le vivre et en plus, nous découvrir peut-être, ou nous imaginerions peut-être que nous ne sommes même pas les aînés, ce qui serait encore plus terrible
encore
pour notre
terrible.
Ego. Donc, mais est-ce que ça concernerait toute l'humanité? Je n'en sais rien. Mais c'est une. En tout cas, ça vaut la peine de se poser la question comme vous le faites ce matin.
Ouais. Jusqu'ici, on a parlé avec vous, Jacques Arnoux, et avec Stéphane Udry, de la recherche de la vie, de la recherche de la vie par observation, on va dire. Mais il se peut, en tout cas, on essaye aussi, imaginer que la découverte se fasse à travers une communication avec une civilisation avancée, intelligente, qu'on reçoive des signaux ou que des signaux en réponse de ceux que nous avons déjà envoyés. Est-ce que, selon vous, Jacques Arnoux, c'est un cas à envisager?
Bien sûr, parce que d'un côté, une fois encore, vous savez, c'est des questions très débattues. Donc, il y a effectivement des spécialistes qui vous disent de toute façon, s'il y avait effectivement des signaux, s'il y avait effectivement des centaines, des millions, des milliards de civilisations, nous devrions déjà avoir eu un signe de leur existence. Donc, où sont-ils? C'est le paradoxe de Fermi.
Parce qu'on les a jamais entendus pour l'instant.
Voilà, on les a jamais entendus. Donc, en gros, tournez la page, ne rêvons pas trop à cela. D'autres, au contraire, et c'est vrai que s'appuient sur la découverte des exoplanètes, sur les travaux aussi en termes de biologie. Pensons aussi à toute l'avancée de la biologie terrestre. Les formes très étranges de vie que nous trouvons aujourd'hui sur Terre nous laissent aussi, augmentent aussi les capacités de tout ce qu'on entend par habitabilité, ce dont nous parlait Stéphane Audry tout à l'heure. Donc pourquoi pas? Laissons ouvert cette hypothèse et la possibilité, effectivement, de recevoir des signaux artificiels venant de ces civilisations. Et donc, depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, nous utilisons nos radiotélescopes pour écouter le ciel. Et ça, c'est, en même temps, je trouve que c'est une belle activité humaine parce que dans l'humain, il y a d'ailleurs, comme dans tout être vivant, la position d'être aux aguets, d'être en attente, d'être à l'écoute, soit parce que c'est essentiel pour notre survie, ça, n'importe quel être vivant le sait bien, et puis pour nous, êtres humains, qui avons aussi un certain nombre de protection, qui avons élaboré des protections, nous pouvons aussi, je dirais pas pour le plaisir, mais de manière plus rassurée, être aux aguets, être à l'écoute, être en attente. Même si nous savons que les chances d'écouter quelque chose, de découvrir quelque chose restent extrêmement faibles, il y a cette attitude-là et je la trouve essentielle. Parce que le jour où une civilisation, une culture ou une espèce comme la nôtre dit au fond, j'ai plus rien à attendre de l'extérieur et puis je commence à couper mes antennes, à couper mes paraboles, à couper tout ce qui me permet d'être en lien avec un possible extérieur, je crois que ce jour-là, nous serions en train d'entamer notre dernier chapitre.
Alors, parmi les écoutes ou les signes un peu particuliers qu'on a observés dans l'espace, Stéphane Udry, l'année dernière, on a beaucoup parlé de l'étoile KIC 8462852, elle est pas très poétique, qu'on a surnommée l'étoile à mégastructure alien. Donc, en fait, elle affiche des variations de luminosité qu'on a du mal à expliquer autrement que par une espèce de mégastructure artificielle qui serait construite autour de l'étoile. On en reparle depuis une semaine parce que ces variations de luminosité sont revenues. Vous avez une opinion sur la question très rapidement.
Oui, je connais une partie des scientifiques hein, qui ont fait l'annonce et c'était un clin d'œil à la presse. Ce qu'on observe, c'est un signal d'éclipse, mais qui n'est pas très régulier comme si une planète pleine passait devant une étoile, mais c'était une sorte de passoire qui passe devant. Donc, au moment où on arrête la lumière, au moment où on laisse passer.
Une planète passoire. Hein.
Alors, ça aurait pu être une solution, non? Je crois que l'hypothèse scientifique la plus probable, c'est qu'on a une famille de comètes. Qui est dans une région de l'espace et puis qui passe devant de manière régulière. Ouais. Peut-être un objet plus grand qui s'est fragmenté par le champ gravitationnel.
Et c'était donc un sujet en nouvelle diffusion de Bastien Confineau avec Stéphane Udry, astronome, directeur de l'Observatoire de l'Université de Genève, et Jacques Arnoux, éthicien au CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales Français, et auteur de l'ouvrage « Turbulence dans l'univers, Dieu, les extraterrestres et nous » paru chez Albin Michel. Quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
L'axe Lausanne-Pontarlier est toujours fermé à la hauteur du rond-point du Creux en direction de la France suite à un accident. Et sur le contournement de Lausanne, on roule au pas sur la voie de droite entre Lausanne-Blecherette et Lausanne-Veynes en direction de Vevey.
Avant que la mort nous arrange et que je t'envoie dans les airs, avant que l'on crève en silence, avant que je perde la vie. Avant que nos baisers se fanent au gré de nos années-lumière, avant que tu brises le charme, avant que je m'endorme côté fenêtre, j'ai 2 secondes à te prendre et 3 minutes pour me défaire des matins.
Bonne
Stéphanie Blanchot, la chanteuse et comédienne helvético-belge, avec mes bonnes manières. Tout au long de cette semaine, nous allons parler de mort violente de surcroît, de la mort violente de personnages célèbres comme par exemple Robespierre, Marat, Houdini, Boris Vian. Et à chaque fois, nous allons essayer non seulement d'analyser le déroulement, mais aussi ce qui a provoqué la mort violente de chacun de ces personnages, Anne Bécher.
Oui, et pour cela, il nous fallait un médecin légiste passionné d'histoire. Eh bien, c'est le cas de Philippe Charlier, qui est également anthropologue, un chercheur connu pour avoir entre autres authentifié le crâne d'Henri IV, vous en souvenez peut-être, et qui, pour écrire ses livres, est constamment à la recherche de reliques, d'archives, de toutes sortes de rapports d'autopsie, plus ou moins élaborés, selon l'époque, autant d'éléments qui vont lui permettre de reconstituer au plus près les derniers moments tragiques de personnages historiques, comme par exemple Agnès Sorel, Rimbaud, Nerval, Lincoln, Zola, ou encore tout ce qui pouvait gêner la fameuse marquise de Brinvilliers, l'empoisonneuse.
Donc en une semaine, on ne pourra pas parler de tout le monde. Lesquels avez-vous choisi ?
Alors je vous propose cette semaine de revisiter la mort de Boris Vian, mort pendant une projection de film, et de redécouvrir celle du célèbre illusionniste américain Houdini, celui qui a bravé la mort toute sa vie et qui, à première vue, serait mort d'une bête péritonite. La mort également de Marat, poignardé dans sa baignoire alors qu'il est en train d'écrire. Mais pour l'instant... Eh bien, je vous propose, Silvio, je vous propose de remonter dans le temps jusqu'au 28 juillet 1794. Eh bien, ce jour-là, Robespierre, personnage clé de la Révolution française, Robespierre monte à son tour sur l'échafaud. Après avoir été identifié par le tribunal révolutionnaire et condamné sans procès, il est guillotiné sous les acclamations de la foule en compagnie de 21 de ses amis politiques.
Bon là franchement, il n'y a pas vraiment de suspense, la cause de la mort semble assez évidente puisqu'il est guillotiné, Robespierre.
Oui, c'est vrai, mais c'est comment quand on meurt guillotiné ? Philippe Charlier.
En fait, lors d'une décapitation, ce qui provoque la mort, c'est la section brutale de la moelle épinière, avec également une section de toutes les artères et les nerfs qui accompagnent. Du coup, le cerveau est totalement déconnecté du reste du corps, notamment le cœur et les poumons. Il y a également une sidération de tous les muscles qui s'installent au moment de la section traumatique de la moelle épinière. Donc la mort, elle est quasiment instantanée. Certains témoins contemporains des décapitations au XVIIIe siècle, la Révolution française, et après, donc ce qu'on appelle les décapitations judiciaires, ont constaté que parfois les yeux clignaient. Et certains même ont demandé, en négociant, en disant bah, « Écoute, je vais donner tant de francs à ta famille ou d'écus, mais tu me diras juste après t'avoir décapité, tu cligneras une fois, deux fois ou trois fois pour me dire si tu sens encore, si tu es encore capable de diriger tes muscles au niveau des yeux, de la bouche, etc. » Et en fait, il n'y avait pas de réponse franche. On ne sait pas exactement si la conscience persiste quelques secondes après la décapitation. Vraisemblablement non, sur un plan physiologique, et en tout cas aucune expérience n'a été menée pour le confirmer. Honnêtement, c'est une des morts les plus rapides qui soient.
Certainement les moins douloureuses aussi, par rapport à celles qui ont été pratiquées.
On a du mal à juger la douleur. Comme la mort est quasiment subite, et bien du coup, on imagine que la douleur n'est quasiment pas ressenti. Mais c'est vrai que dans toutes les décapitations qui ont été décrites, et jusqu'au dernier usage de la guillotine dans les années 1970 en France, ce qui frappe le monde entier, c'est la rapidité. La rapidité même entre le fait qu'on allonge la victime, ce qu'il faut bien appeler ça une victime, sur cette grande planche en bois, et puis il ne se passe même pas deux secondes sans attendre que le couperet ne tombe. Donc on ne perd pas de temps avec la mort.
De ce point de vue, la guillotine était certainement la façon de décoller, comme on dit, de faire une décollation, de décapiter quelqu'un qui était le plus efficace et le plus propre, entre guillemets.
C'était le plus propre parce qu'avant, il y avait des décapitations qui étaient à la hache ou à l'épée, et on a malheureusement de tristes exemples. Marie Stuart, par exemple, reine d'Écosse, il a fallu s'y reprendre à trois fois pour la décapiter. Le bourreau était complètement, faut dire ce qui est, il était bourré comme un coin, il était complètement éméché, parce qu'il fallait quand même franchir ce tabou de décapiter une reine, reine d'Écosse. C'était quand même quelque chose, même si c'était la reine d'Angleterre qu'il demandait. Malgré tout, le premier coup a touché la nuque, le deuxième coup a touché l'occipital, et le troisième, enfin, a été fatal. Et pendant tout ce temps-là, la pauvre Marie Stuart souffrait. Alors c'est pas fini. Ensuite, au moment de prendre la tête pour la montrer au peuple, le bourreau avait oublié qu'elle portait une perruque. Du coup, il a juste pris la perruque et la tête est tombée et a roulé au sol. Et au moment de débarrasser le corps ou ce qui en restait, le tronc, si on peut dire, on s'est rendu compte que le tronc tremblait tout seul. Eh bien, parce que le petit chien de Mary Stuart était venu se réfugier sous sa robe et du coup, il faisait bouger le corps qui était mort depuis déjà plusieurs minutes.
Demandez les numéros gagnants de la loterie de Sainte-Guillotine. La liste complète des 54 condamnés du jour, lesquels comme assassins de Robespierre ont été revêtus de chemises rouges à la façon des anciens régicides.
On va revenir à Robespierre. Le voilà décapité. Que s'est-il passé avec sa tête et le corps de Robespierre après son passage à l'échafaud ?
La tête a été montrée au peuple parce qu'à chaque fois, c'était quasiment une procédure, on va dire, médico-légale. Il fallait montrer que la personne qu'on avait décapitée était bien la bonne. Donc une fois la tête tranchée, on l'a présentée au peuple qui généralement la conspuait ou qui la moquait ou qui parfois même l'humiliait physiquement avec des projections de ce qu'on peut imaginer, de dégradant. Et ensuite, la tête était... elle rejoignait le corps et elle était enterrée dans une fosse commune ou parfois jetée aux égouts ou jetée à la Seine. Dans le cas présent, il semble que une femme se soit emparée de la tête au moins quelques minutes pour en faire un moulage, un masque mortuaire, c'est la Madame Tussaud en l'occurrence, dont c'était un peu l'habitude. Elle était assez proche, on va dire, des bourreaux et on ne sait pas comment elle les approchait, mais en tout cas elle a réussi à faire pas mal de moulages révolutionnaires et d'autres personnalités importantes de la fin du 18e siècle et début du 19e siècle, jusqu'à ensuite établir son musée à Londres quand elle s'est expatriée. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment une vision complète et totale des traits du visage de Robespierre, une vision, on va dire, réaliste. Ce qu'on n'obtient pas avec les portraits réalisés de son vivant, qui eux sont complètement idéalisés. Je vous mets au défi de trouver deux portraits ressemblants de Robespierre réalisés de son vivant. Ils sont tous tantôt transformés en tribun romain, tantôt transformés en bel hidalgo. Enfin, il n'y a rien du tout de réaliste. Donc le seul réalisme donné, c'est celui du masque mortuaire qui, pour le coup, est vraiment une vision un peu dramatique, mais pour le coup assez terre-à-terre de l'individu.
C'est à partir de ce masque-là qu'on a pu refaire une reconstitution faciale en 3D il y a quelques années.
C'est à partir du masque mortuaire qu'on a redonné des traits réalistes à cet individu. En effet, on avait déjà une vision en 3 dimensions, puisqu'on avait le masque qui lui-même est en 3 dimensions, mais on l'a colorisé, on a interprété sur le plan médical les différentes lésions qu'on y trouvait, en l'occurrence des stigmates d'une maladie, la variole, dit aussi la petite vérole, pour laquelle il avait des séquelles d'une infection passée, qui pour le coup vraiment mutilait complètement son visage. Il était grêlé par les cicatrices de la variole, et ça, étonnamment, on les voyait pas sur tous les portraits réalisés de son vivant. Et puis on a également pu mettre en évidence les signes d'une autre maladie vraisemblable qu'il avait, qui est une sarcoïdose, c'est-à-dire une maladie auto-immune, qui touche le corps entier, et notamment le visage, principalement au niveau de la racine et des ailes du nez. En revanche, il y a une chose qu'on ne voyait pas sur le masque mortuaire, et pour une bonne raison, c'était l'orifice du projectile à balle d'arme à feu qui était rentré par sa bouche la veille de sa mort, qui était sorti par la joue gauche. Et comme les chirurgiens qui l'ont examiné le jour même l'ont dit dans leur rapport, c'était fermé et bouché par une sorte de concrétion de sang séché, de sang dur. Et du coup, comme on a un masque mortuaire et pas une photographie, ça fait un trou bouché et donc on ne le voit pas. On a une asymétrie entre la gauche et la droite, un peu d'œdème on va dire, mais on n'a pas une visibilité réelle d'un trou, vu que le trou est bouché.
On rappelle juste comment se fait-il qu'il a pris cette balle dans la mâchoire la veille de son décès ?
Alors, on rappelle un tout petit peu les faits. Il est en pleine disgrâce politique et personnelle. Il est acculé, il est obligé de se réfugier à l'hôtel de ville de Paris. Et là, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Soit un gendarme, le bien nommé Merda, essaye de lui tirer dessus et l'arme est en tout cas pas assez chargée. Et donc, du coup, le projectile rentre par la bouche, ressort par la joue gauche, mais ne tue pas Robespierre. Fracture de la mandibule, deux dents qui sont arrachées, d'ailleurs récupérées comme souvenir par les chirurgiens qui l'examinent, et puis ensuite, on l'allonge sur une table, on lui fait une sorte de pansement un peu en œuf de Pâques, et puis il va souffrir le martyr, si on peut dire, jusqu'au lendemain où on abrège ses souffrances en le décapitant. Autre hypothèse, eh bien, c'est que Robespierre se soit lui-même emparé de l'arme du gendarme Merda et qu'il ait voulu, dans un geste, on va dire, assez stoïcien, bien, il aurait essayé de se suicider tout simplement. Vous ne m'aurez pas vivant, en se tirant une balle dans la tête, sauf que le coup n'est pas parti dans le bon sens, et rentré par la bouche, mais il est ressorti par la joue gauche, avec exactement, de toute façon, les mêmes conséquences.
Pour vous, c'était quoi, un suicide? En tout cas, une tentative de suicide, ou c'était un accident?
Pour nous, c'est difficile à dire. On est obligé de se fonder non pas tant sur le masque mortuaire, mais plutôt sur les témoignages, et notamment ceux des chirurgiens jurés qui l'ont examiné. Vraisemblablement, vu les données balistiques qu'on a, ça ressemble plus à un tir compatible avec un suicide, parce que il semble vraiment que le coup ait été tiré à l'intérieur de la bouche de l'individu. On imagine mal Merda introduire l'arme dans la bouche de Robespierre, même si, dans une échauffourée, dans un contexte révolutionnaire, tout reste possible.
J'aimerais revenir à ces deux pathologies desquelles souffrait visiblement Robespierre. Donc, 219 ans après sa mort, à l'âge de 36 ans, vous avez avancé que celui-ci, donc qu'on appelait l'incorruptible, c'est quand même drôle, souffrait de ces différentes pathologies. Vous parliez de la sarcoïdose. À partir de quels éléments vous avez avancé cela ?
Le diagnostic de sarcoïdose a été proposé, et on peut uniquement dire proposé parce qu'on n'a plus le cadavre, sur l'examen d'abord et surtout du dossier médical de son médecin, Joseph Souberbiel, qui était le médecin personnel de Robespierre et qui nous décrit vraiment tout un aréopage de signes cliniques sur cette personne, à commencer par une fatigue d'installation progressive, une toux, une coloration jaune des traits, et notamment des muqueuses au niveau des yeux, des saignements de nez répétitifs, épistaxie, donc des lésions nodulaires au niveau des jambes et au niveau de la racine du nez, voilà tout un amoncellement en fait de signes cliniques qui nous ont fait proposer ce diagnostic de sarcoïdose généralisée. Ça, ce sont quand même des signes qui sont assez évocateurs de la maladie. Je pense que si ce patient était passé dans les lits du docteur House, je pense qu'il aurait proposé le même diagnostic que nous.
Si on pouvait vous proposer le corps de Robespierre maintenant, on va faire un peu un time loop en arrière. Vous pouvez avoir le corps de Robespierre en médecine légale sur une table. Le premier examen, ce que vous auriez envie de vérifier tout de suite, c'est ça alors ?
Alors si j'ai le corps et que par bonheur il est en partie momifié, j'aurais le plaisir de lui faire subir un scanner corps entier pour avoir un peu la visibilité interne de ses tissus avant que l'autopsie ne le dégrade. Si malheureusement je n'ai plus que les ossements, de la même façon on fera un examen radiographique complet et puis on fera un examen systématique à l'œil de ces ossements comme on le ferait en anthropologie médico-légale. Toute une batterie de tests génétiques également et notamment de recherche de phénotypes serait assez intéressant.
La mort de Robespierre, c'était donc Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. Voilà pour aujourd'hui. Et demain, Anne, qui est-ce qui meurt?
Eh bien, demain, c'est Marat qui meurt poignardé dans sa baignoire. Par qui? Comment et pourquoi? Eh bien, vous le saurez demain, même lieu, même heure.
CQFD, la science et la santé sur la première.
I've been finding the time to be bored out of my mind. I've been walking for days. I don't have the time to play. You're kind of parlay. So won't you come? Never wish for you to go to roll down that old road. You're making my heart low, lost in.
Plemon, Home Soon, pour terminer CQFD ce lundi. Merci de nous avoir suivis. David Golon et Mathieu Ramsauer ont réalisé cette émission. Jean-Baptiste Roumain s'en a choisi les musiques. Demain, vous retrouvez Stéphane Gabiot, commande de CQFD. Avant ça, ce soir, je vous signale à 21h30 sur RTS2, le documentaire Clean Hands, consacré au médecin VHUG Didier Pittet, créateur des solutions hydroalcooliques pour le lavage de mains qu'il promeut dans le monde entier. Et encore avant, ça sera dans quelques minutes, ça, après les infos, c'est Tribu que vous retrouverez. Bonjour Catherine Erard.
Bonjour Silvio.
Alors j'en porte depuis l'âge de 6 ans. Sans elle, je n'ose pas vraiment traverser la route. Elles, ce sont les lunettes. Et là, vous allez nous annoncer leur disparition.
Alors oui, on se pose la question parce que de plus en plus de personnes n'en portent pas, comme moi qui triche un peu puisque j'ai des lentilles. Et puis il y en a de plus en plus qui se font opérer. Alors est-ce que les lunettes, c'est bientôt fini? On verra ça avec notre invité tout à l'heure.
Je dois vous avouer que j'ai de la peine à me voir sans mes lunettes. Mais enfin, bon, allez, je vous souhaite une très très belle émission. Excellente suite de journée à tout le monde. Vous écoutez La Première et il va tout bientôt être 11h.